Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Bonjour à tous, je suis Alice Vacher et je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'Empreinte. Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Hutzmann, le président et cofondateur du groupe EFI. Salut, je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte. Donc le groupe EFI est spécialiste de la rénovation énergétique. C'est un secteur qu'on a déjà eu dans l'Empreinte, mais j'ai envie que tu m'en parles davantage, avec un point de vue d'expert, parce que voilà, je pense que tu en parleras mieux que moi-même.
La rénovation des bâtiments, c'est une priorité aujourd'hui en France, puisque le bâtiment, on le sait assez peu, mais c'est la première source de consommation d'énergie en France, devant l'industrie, devant les transports.
Ménage, que ce soit ménage professionnel et personnel, en fait.
Alors, la plupart de la consommation, elle est personnelle. C'est dans les maisons et dans les appartements qui sont habités par les gens. Et puis après, il y a les bureaux. Mais donc, le bâtiment, c'est 45% de l'énergie consommée en France. Et les maisons, en fait, on en construit assez peu tous les ans, de l'ordre de 1% du stock qui est renouvelé. Et donc, si on veut, d'ici 2050, arriver à avoir une quasiment plus de consommation d'énergie en France, en fait, il faut forcément rénover les maisons existantes. Et ça, c'est notre credo, notre métier.
Et comment on peut faire un audit de sa consommation énergétique?
Alors, finalement, il y a des choses assez simples. Il y a beaucoup de travaux dans les maisons qu'on peut réaliser simplement. Il y a des choses qui ne se voient pas, comme par exemple ce qu'on appelle les combles perdus. C'est l'espace qui est entre ton plafond et ta toiture, quand tu habites une maison individuelle. Donc, il y a souvent un espace qui très souvent n'est pas occupé, c'est des greniers non aménagés. Et dans cet espace, en fait, la chaleur, elle monte, comme sur une casserole, quand tu vois bien la vapeur d'eau qui monte. Et si les combles ne sont pas isolés, en fin de compte, elles s'échappent de la maison.
Bah, tu me dis un truc, parce que là, moi, j'ai des combles. Je ne suis pas en maison, mais je suis en appartement et j'ai justement les combles juste au-dessus de moi. Donc
c'est une perte d'énergie très importante pour les maisons ou quand on est au dernier étage dans des appartements. Et donc ça, c'est des travaux d'isolation qui sont relativement simples à réaliser. Il y a de l'isolation aussi du plancher, l'espace effectivement qui est sous la maison, par lequel on peut perdre de la chaleur également. Et quand on est sur ce qu'on appelle un vide sanitaire ou une cave, on peut assez facilement venir isoler le plafond de cette cave ou de ce vide sanitaire de manière à protéger la maison par le bas. Et puis après, il y a toutes les actions relativement classiques, hein, le changement des fenêtres, qui peut apporter aussi beaucoup de confort.
Les portes aussi, non?
Les portes également, surtout quand il y a des fuites d'air.
C'est parce ça,
qu'on,
en fait.
Ce qu'on sent souvent, c'est pas tellement les pertes d'énergie par le vitrage, mais aussi par tout ce qui est autour, en fait, qui ferme mal. Et donc, il y a des courants d'air qu'on ressent. Et le changement de fenêtre permet de stopper ces courants d'air. Et puis après, il y a tout ce qui touche aux chaudières ou à la production de chaleur dans la maison, avec beaucoup de chaudières qui, en fait, sont assez vieilles, pas très bien entretenues, et sur lesquelles il y a des gains important à faire, c'est plus de 30% de gains, hein, quand on change une vieille chaudière par une chaudière plus récente.
Et donc concrètement, comment agit EFI? Je suis un utilisateur lambda, pas un utilisateur, on n'utilise pas EFI, on va aller consommer, on va aller, je sais pas, acheter l'offre. Comment ça marche? Comment ça fonctionne?
Comment ça marche, FI? Alors, c'est parti d'un constat, en fait.
De ton constat, puisque j'ai lu ça, que tu avais voulu rénover. En fait, la chaudière de tes parents était tombée en panne, non? C'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'étais salarié chez Saint-Gobain, qui est un grand groupe français qui a beaucoup d'activités dans le monde du bâtiment. Et je travaillais sur l'innovation de Saint-Gobain, à un moment qui était le Grenelle de l'environnement, où on parlait beaucoup.
Quelle année?
2007-2008. Et donc, on parlait beaucoup à l'époque de rénovation des bâtiments, de rénovation énergétique. Et quand mon père veut changer sa chaudière, assez naturellement, il me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, je me suis retrouvé un peu démuni, à pas trop savoir quoi lui dire. Et j'ai dit, écoute, je pense que le mieux à faire, c'est d'appeler un chauffagiste. Et il se trouve que celui qu'il a appelé, en fait, a fait globalement n'importe quoi, qu'il a monté la chaudière à l'envers, qu'elle a mis du temps à condenser. Quoi. Et je me suis rendu compte, à ce moment-là, à quel point c'est difficile quand tu es un particulier, que tu as à faire des travaux de rénovation énergétique. Déjà, faire des travaux de rénovation, c'est compliqué. Mais quand en plus, c'est de la rénovation énergétique, il y a des aides, mais on ne sait pas lesquelles. Il y a des travaux, mais on ne sait pas forcément lesquels. Et comment trouver un professionnel en qui avoir confiance. Et c'est comme ça qu'est né, en fait, EFI, donc en 2008.
Et donc, mais toi, tu avais trouvé à l'époque quelqu'un où tu as dû te dire, où tu t'es dit, en fait, il y a vraiment une lacune, il y a un manque.
Je me suis dit, il y a un besoin. La rénovation des bâtiments, il y a des maisons, il y en a énormément. Toutes les personnes qui sont dans la maison, qui ont dit, en fait, j'ai envie de faire quelque chose, ma chaudière, mes fenêtres.
Et puis, est-ce que tu avais un constat écologique à la base en te disant, on va faire des économies, mais aussi, ça va être vertu, puisqu'on ne va pas gaspiller d'énergie?
C'est un constat écologique, c'était assez, à cette époque-là, en fait, on est en 2008.
Ouais, parce que c'est pour ça, c'est assez précurseur, je trouve, en la matière.
En 2008, en fait, on parlait énormément d'énergie renouvelable. Bon. Et chez Saint-Gobain, je travaillais beaucoup sur des projets d'énergie renouvelable qui, en fait, coûtaient extrêmement cher par électron produit. Le solaire produisait de l'énergie plus de 10 fois plus chère que celle qu'on consommait. Donc c'était une énergie qui coûtait très cher et qu'il fallait donc subventionner énormément. Et j'étais très surpris à l'époque de me dire, mais finalement, plutôt que de produire cet électron de manière renouvelable, on pourrait l'économiser. Et quand on isolait des bâtiments, changer une chaudière, c'est pas compliqué. C'est des choses qu'on sait faire depuis.
Ça dépend pour qui. Hein. Clairement, tu me demandes demain d'aller changer ma chaudière, tu me retrouves à la cave.
Eh ben, appelle les filles. on va s'occuper de toi.
Je pense que je vais appeler les filles.
Et donc le constat écologique, c'est de dire, il y a énormément de maisons qui ont des gros besoins d'économie d'énergie, parce qu'il y a des économies simples à réaliser avec des retours sur investissement qui sont rapides.
Surtout qu'on n'y pense pas.
Et on n'y pense pas.
On voit la facture qui augmente,
on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas par quel bout attraper, quelque part, ce sujet-là. Et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à créer, un métier à inventer, qui est celui de l'accompagnateur du particulier, le tiers de confiance, qui va aider un particulier à trouver quels sont les travaux qui sont pertinents pour moi, en fonction de ma maison, en fonction de mes envies, en fonction de mes moyens. Comment trouver des professionnels en qui je peux avoir confiance? Et puis, quelles sont les aides et subventions auxquelles j'ai le droit? Et comment les obtenir? C'est toujours pareil.
Donc, c'est vraiment presque un courtier d'énergie, quoi.
C'est une sorte de guichet unique, ouais. Quelque part, qui va s'occuper de toi du début, l'idée, l'envie, les moyens, éventuellement, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, et on en reparlera sûrement, mais les solutions sont évidemment différentes pour des gens qui sont des ménages très aisés et qui investissent dans leur maison, parce qu'en fait, c'est...
D'ailleurs, qui se posent même peut-être pas la question de leur optimisation...
Énergétique, ils se font plaisir quelque part en investissant dans leur maison et d'autres qui, au contraire, ont une vraie problématique avec la consommation d'énergie qui ne se chauffe pas suffisamment en hiver. Et donc, les solutions sont évidemment différentes. Et nous, notre métier, quelque part, c'est d'inventer des solutions adaptées aux besoins de chacun de manière à accompagner quelqu'un qui a envie de faire des économies d'énergie, de l'intention, le début, jusqu'à l'action.
Et justement, ces solutions, elles sont souvent vertes ou... Enfin, tu as un panel d'offres un peu différentes en fonction des besoins.
On n'est pas un vendeur de fenêtres ou un vendeur de chaudières ou un vendeur
de... Vous allez vers le mieux.
Voilà. Nous, en fait, on est un interlocuteur pour le particulier et on a un réseau d'entreprises locales, donc des artisans dans toutes les régions de France, sur tous les corps de métier, qui, en fonction de tes besoins ou de ta maison et de là où tu habites, vont pouvoir intervenir. Et donc nous, on est là pour trouver les solutions qui sont les plus pertinentes pour toi. Et puis après, te mettre en relation avec une entreprise et t'accompagner jusqu'au bout pour que tes travaux soient réalisés, que ce soit des travaux de qualité. C'est le premier truc, c'est essentiel. Et ensuite, que tu puisses récupérer les aides et subventions auxquelles tu peux avoir droit et que très souvent, en fait, les gens oublient d'aller chercher.
Et tu me parlais de tes engagements. Donc, on a vu quand même l'engagement environnemental, mais il y a un engagement social aussi derrière tout ça.
Alors ça, c'est une des particularités, effectivement, du groupe EFI et de ce qui nous rassemble dans le groupe EFI, qui est une conviction forte, ouais, qu'on peut avoir un impact positif pour la planète, c'est le vert, mais on peut et on doit aussi avoir un impact social. Bah, il faut trouver des solutions pour tous les ménages, y compris les plus modestes. Moi, j'ai été frappé dès le début de... en échangeant avec des acteurs de terrain dans des associations, de découvrir la problématique de la précarité énergétique qui est extrêmement développée. En France, c'est près de 10 millions de personnes en France qui sont dans la situation aujourd'hui, en 2020, de 2021.
Sans compter, du coup, ceux qui n'ont pas de logement, hein ? Parce que tu imagines, oui, mais... ça veut déjà dire que...
Alors après, il y a tous ceux qui effectivement, sont sans domicile fixe ou qui n'ont pas de logement et qui sont encore dans un autre niveau de détresse énergétique.
Ça prouve la détresse, en fait, sociale.
Mais il y a 10 millions de personnes qui, en fait, ont des maisons, sont souvent propriétaires de maisons, ont souvent un emploi, une famille monoparentale, madame, deux enfants, avec un salaire en région parisienne. C'est très compliqué de boucler les choses.
Vu
les prix de tout. Et donc, du coup, en fait, comme l'énergie, ben, en fait, c'est quelque chose sur lequel on peut jouer en réduisant son confort, eh ben, on va se retrouver avec des maisons qui en hiver, vont être à 12, 14 degrés à l'intérieur. Et on pourrait se dire au premier niveau, ben, c'est moins de confort. Oui, bien sûr, c'est moins de confort, mais pas que. C'est moins de confort, mais c'est aussi de la condensation, de la moisissure, c'est des maladies respiratoires qui se développent, c'est des problèmes de socialisation, parce qu'en fait, quand il fait 14 degrés chez vous l'hiver, vous n'invitez pas vos amis à la maison pour dîner. Et si vous avez des enfants, vos enfants ne vont pas inviter leurs copains non plus, parce qu'en fait, ils vont avoir peur qu'on se moque d'eux à l'école, et ils vont avoir du mal à faire leurs devoirs aussi, parce que travailler quand il fait 12 ou 14 degrés dans la maison, bah c'est... Et donc, température intérieure relativement faible, en fin de compte, c'est un vrai problème de société. Et on s'est dit qu'on pouvait trouver des solutions. C'est vraiment, moi, j'ai ce réflexe, cette conviction, un peu d'ingénieur, quelque part, de dire, il y a un problème, on doit arriver à trouver une solution à ce problème, comment est-ce qu'on fait pour trouver la meilleure solution ? Et on a imaginé des solutions adaptées à ces ménages les plus modestes.
Et c'est quelles solutions ? Si tu as des exemples concrets ?
Il y en a deux, il y en a une qu'on a développée dans le cadre de l'entreprise et l'autre dans le cadre du fonds de dotation qu'on a créé. On a créé un fonds de dotation dédié à la lutte contre la précarité énergétique en 2010. Donc c'était la société avait 2 ans et donc dès le début, on a créé ça. Le fonds de dotation, son objet, c'est l'accompagnement des ménages. Qu'est-ce qu'on peut faire sans investir ? Les ménages très modestes, ils ont peu moyens d'investissement. Comment est-ce qu'on peut faire pour les aider ? En fait, il y a un ensemble de gestes, on appelle des éco-gestes, qui permettent d'économiser de l'énergie. Alors, ça va fermer ses rideaux et ses volets le soir, fermer les portes, baisser le chauffage quand on n'est pas dans la maison pour le remettre plus quand on y est, etc. Il y a tout un tas d'actions, en fait, qu'on peut faire, qui vont permettre d'économiser de l'énergie et du coup d'en avoir plus quand on en a besoin. Donc ça, c'était notre fonds de dotation. Et en parallèle, en fait, on a commencé à réfléchir en disant, mais en fait, on pourrait créer une solution, une sorte de tiers payant pour les travaux. Quand tu es un ménage très modeste, en termes de santé, en fait, tu vas bénéficier quelque part d'un accompagnement de santé et tu ne vas pas le payer. En fait, il va être évidemment payé par quelqu'un d'autre, puisque la santé, ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas le ménage qui va le financer de sa poche et qui va le faire rembourser plus tard. Or, tout le système en France était basé sur un système de subvention qui arrivait après les travaux. Et donc, il fallait que le ménage trouve son entreprise, paye ses travaux, aille chercher ses subventions et après se récupérer une partie de ses subventions. Et on s'est dit, mais en fait, il faut, pour ces ménages les plus modestes, qu'on trouve une solution différente. Et cette solution, on va s'inspirer de ce tiers payant dans la santé et on va faire des travaux qui sont tiers payés. Voilà. Et c'est ce qu'on a réussi à inventer, qui sont les fameux travaux à 1 euro qu'on a inventés en 2012.
Et qui peut être éligible à ça, d'ailleurs ? Il y a quand même toute une...
Il fallait à l'époque avoir des combles perdus et être un ménage modeste ou très modeste. Et donc, c'était des travaux qui ont une sorte de priorité énergétique. C'est des travaux qui sont réalisés en une demi-heure, une heure, très rapidement, et qui, quand ils sont bien faits, ont un réel impact sur la consommation des maisons. Et donc, du coup, on s'est focalisé sur ce type de travaux en se disant c'est vraiment les plus efficaces. Et donc, dans une enveloppe de tiers financement qu'on va obtenir des gens qui payent à la place des ménages qui occupent les maisons, bah, finalement, on pourra en faire plus. Et donc, plus, c'est plus de maisons, c'est plus de ménages qui font plus d'économies d'énergie. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti. Et chemin faisant, en fin de compte, on a déployé ce type d'approche sur d'autres types de travaux, comme les travaux d'isolation des planchers bas et puis les pompes à chaleur en 2019, avec une deuxième point de différenciation qui est très fort sur ces travaux à 1 euro, qui est 1 euro, c'est-à-dire qu'effectivement, la plupart du chantier est payé par quelqu'un d'autre. Mais nous, notre spécificité, c'était de garantir aux ménages la qualité des travaux. Parce que...
Le but, c'est pas de refaire tous les 15 jours.
Voilà, ou encore pire, enfin, on a vu et on a poussé des grands cris parce que c'est absolument inacceptable, intolérable. Et on s'est battu contre des margoulins qui ont fait n'importe quoi.
Et qui ont détérioré carrément...
Mais qui peuvent intervenir dans des maisons, faire des travaux au rabais, pour pas dire autre chose, et qui parfois peuvent détériorer la maison ou poser des problèmes potentiellement de santé ou d'incendie. Quoi. Nous, on a dit, les ménages les plus modestes, il faut leur avancer quelque part tout le financement des travaux parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et d'autre part il faut leur trouver des solutions, il faut leur garantir la qualité des travaux qui va être réalisé parce que les ménages les plus modestes, c'est aussi les plus démunis et malheureusement c'est aussi ceux qui sont les plus vulnérables par rapport à certains escrocs qui peuvent s'en donner à cœur joie.
Donc je suppose que le sourcing des prestataires avec lesquels vous travaillez est très exigeant pour pas avoir affaire à ce type d'acteurs, on va dire.
Ouais, ben nous, on accompagne vraiment le particulier d'un côté, et on sélectionne les entreprises qui interviennent. On les sélectionne sur 3 critères. C'est très transparent et très très simple, mais grand 1, la qualification technique pour les travaux. Donc ils savent faire les travaux, évidemment. On va dire c'est une évidence. Mais c'est pas tout le monde. Donc ils ont une qualification technique et pour le type de travaux que vous voulez réaliser et elle est valide au moment où vous voulez faire vos travaux. Parce qu'il y a des gens qui ont été qualifiés à un moment et qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc nous, on vérifie tout ça.
Moi, si je me reconvertissais et que je me mettais soudainement à être ingénieur là-dedans, je pense que je ne vous garantirais pas une réalisation incroyable. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y en a...
On parlera de la formation peut-être, mais c'est important la formation dans le monde du bâtiment.
Je pense. Ouais,
mais donc, on sélectionne les entreprises sur 1, une qualification technique, 2, une solidité financière, une ancienneté qui fait qu'en tant que le particulier, il a toujours l'idée de se dire, mais je vais payer mon acompte, mais qu'est-ce qui me dit que l'entreprise ne va pas partir demain et qu'elle sera bien là, en fait. Et donc, nous, on vérifie avec un organisme spécialisé la solvabilité des sociétés, leur ancienneté. Et donc on vérifie ça pour le particulier. Et le troisième élément, et qui est très important, c'est les notations et les avis qui sont soit disponibles sur Internet. Bon, pour une société avec laquelle on n'a pas encore travaillé, on n'a pas d'autre choix que de regarder les avis sur Internet ou lui demander des références, mais c'est lui qui nous les donne, donc c'est toujours... Voilà.
Comme les avis, finalement, vous arrivez à vous faire un avis, quoi.
Donc nous, on prend l'information disponible quand on n'a pas encore travaillé avec l'entreprise, et dès qu'on commence à travailler ensemble, on demande au ménage chez qui l'entreprise intervient, leur avis, comment c'est passé. Et si jamais il y a des problèmes, ce qui peut arriver, mais de manière très, très rare, à ce moment-là, on intervient et l'entreprise ne travaille plus pour nous.
Et avec cette crise sanitaire, forcément, où on a été confinés, où on est quand même incité à rester chez nous, est-ce que toi, tu as eu un essor de la demande, justement, en matière de rénovation? Est-ce que ça a impacté, sinon, négativement ou positivement, EFI?
Alors, il y a plusieurs éléments dans ta question, c'est intéressant. Il y a la demande.
Toujours plusieurs éléments. Ouais, le problème dans mes questions, c'est qu'elles sont tellement à rallonge qu'il faut répondre à point par point.
On peut l'adresser de deux côtés. Il y a le côté de la demande. Et nous, ce qu'on a vu, effectivement, c'était une demande qui continuait pendant, y compris le premier confinement. Parce que les gens étaient chez eux et donc ils réfléchissaient, ils se posaient des questions. Ils avaient souvent un peu plus de temps pour aller sur Internet. Nous, on ne fait pas de démarchage téléphonique. C'est quelque chose qu'on a même combattu et on a réussi à le faire interdire. Hein. Il faut le dire à tout le monde. Aujourd'hui, le démarchage téléphonique pour les travaux de rénovation énergétique, c'est interdit. Et donc, si des gens vous appellent pour vous vendre de l'isolation des chaudières, c'est interdit.
Et pourquoi finalement c'est interdit? Pourquoi c'était un combat pour toi?
Pour deux raisons. D'une part, parce que c'est absolument insupportable quand les gens appellent. Parce que ma grand-mère, qui a 80 ans, est appelée par des gens qui lui racontent n'importe quoi et qu'elle me dit « Ah, j'ai des équipes qui m'ont appelé pour me parler de chaudière à 1 euro. » Et je dis « Non, mamie, c'est pas moi. »
Et donc, si vous avez affaire à ça, il faut dire derrière aux auditeurs, c'est pas...
Derrière les gens qui font du démarchage téléphonique pour vous vendre des travaux, en fait, vont vous envoyer des commerciaux qui, en fait, vont vous raconter n'importe quoi. C'est un fléau. Donc nous, on est une entreprise engagée, on a des combats.
C'est bien de leur dire aux auditeurs qu'il ne faut pas faire confiance à ces personnes-là. Voilà,
aujourd'hui, le démarchage téléphonique est interdit dans la rénovation énergétique. Et si jamais une entreprise fait ça, il est urgent de raccrocher parce que si ça commence par quelque chose d'interdit, je ne sais pas comment ça va finir. Donc, impact du Covid, il y en a eu deux. Il y en a eu un pour le marché et l'autre pour EFI. Sur le marché, on a vu une demande des particuliers qui continuaient, qui se posaient des questions. Mais objectivement, on ne pouvait pas envoyer d'entreprises du bâtiment pour faire des devis, faire des dimensionnements pendant le confinement. Voilà. Donc du coup, il y a eu beaucoup de projets qui se sont arrêtés, en fait, qui ont été initiés, mais qui se sont arrêtés pendant le confinement. Mais nous, on a surtout utilisé ce confinement pour faire avancer un certain nombre de grands projets, notamment autour de la tech qu'on avait chez EFI.
Le côté innovateur toujours.
Ouais, et en fait,
depuis Saint-Gobain, tu ne l'as pas perdu?
Non, on a tout le temps inventé des métiers, des choses, des solutions qui nous permettent de répondre à des problèmes. Et quand ce confinement est arrivé, on s'est dit, on savait que ça allait durer plus de 15 jours. On était parti pour 2 mois et c'est à peu près ce qu'a duré le premier confinement. Et on s'est dit, en fait, on a 2 mois. Pour faire un certain nombre de changements profonds dans la manière de fonctionner dans le groupe, qu'on peut pas faire, en fait, quand tout fonctionne. Et donc, du coup, il faut arriver à faire des changements profonds. Et donc, quand, en fait, l'activité s'arrête, c'est le moment où on peut accélérer un certain nombre de transformations un peu profondes. Et donc, en fait, on a accéléré ces transformations et on est ressorti de ce premier confinement en ayant complètement changé dans nos systèmes d'information la manière d'accompagner les particuliers de manière à mieux les suivre du début justement jusqu'à la fin.
Est-ce qu'on a oublié des choses que tu aimerais rajouter sur le groupe ?
Il y a quelque chose de très particulier dans le groupe EFI qu'on dit assez peu, mais qui pour moi est important. Je suis absolument convaincu que le monde fonctionne mieux quand il est équilibré.
J'allais justement plus te poser des questions sur tes convictions personnelles, tu réponds à ma question.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire équilibré ? Ça veut dire qu'il y a la diversité, mais qu'il y a aussi de la parité. Et le groupe EFI, c'est un groupe qui est assez exemplaire finalement dans sa mise en œuvre de la parité, par conviction profonde, pas par obligation, mais par conviction profonde. Et donc, on est à 50-50 dans les équipes du groupe, on est à 50-50 chez les cadres, on est à 50-50 dans la direction, on est à 50-50 dans la direction générale, et moi je suis Gémeaux.
tu comptes, tu fais 50-50. Et toi au quotidien, est-ce que tu es engagé, en dehors de ta casquette de président et du groupe EFI, comment tu es un éco-citoyen, on va dire, éco-responsable, mais aussi social, en fait, comment tu t'engages au quotidien?
Moi, je m'engage principalement par mon activité professionnelle. C'était depuis mon plus jeune âge, je voulais avoir de l'impact.
En fait, donc toi, dès le début, tu voulais du sens.
Je voulais du sens et de l'impact. C'était du sens et de l'impact.
Ouais, de l'action, et pas juste du sens, mais de l'inaction.
Et en disant, je ne vais pas changer tout seul la planète. Mais par contre, en fait, je veux faire quelque chose qui ait du sens et je veux le pousser le plus loin, le plus fort possible pour avoir le plus d'impact, parce que c'est ça en fait le réussir, et c'est pouvoir dire on a changé les choses à l'échelle de ce qu'on pouvait mettre en œuvre. Et donc c'est un peu le colibri, on fait tous ce qu'on peut à l'échelle de ce qu'on peut, mais c'est important de le faire, et pour moi c'était une conviction très 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 forte.
Donc continuer à encourager les gens à faire ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour EFI et pour toi d'ailleurs?
De continuer à faire ce qu'on fait, de trouver de plus en plus de collaborateurs engagés qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de s'engager dans une voie qui a du sens, qui a de l'impact environnemental.
Dynamique positive, ça veut dire qu'il y a du recrutement.
Il y a du recrutement. Ouais, on recrute quasiment une dizaine de personnes par mois. On est 240 aujourd'hui dans le groupe EFI. Il y a un besoin qui est colossal. Il y a 30 millions d'habitations en France qu'il va falloir rénover d'ici 2050. Il faudra changer les fenêtres, changer les chaudières, mettre de la régulation, isoler les murs, les combles, le sol. Il y a un chantier qui est colossal, qui nous emmène pour des dizaines et des dizaines d'années, sur lesquelles le groupe EFI, on fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est rentable depuis le début. C'était pour nous quelque chose d'important d'être aussi une entreprise. Et de se développer.
Pas avoir honte de faire du business.
De se développer en gagnant de l'argent et en autofinançant sa croissance. Et c'était une source de liberté aussi pour nous. Et donc on s'est beaucoup développé, mais on a devant nous un chantier qui est colossal. Et on est un tout petit acteur encore avec 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans un marché qui fait plus de 20 milliards d'euros aujourd'hui en France, sur lequel il y a une expérience client-utilisateur qui est mauvaise, parce que faire des travaux, c'est compliqué, de la rénovation énergétique, c'est encore plus compliqué. Et donc, on peut vraiment simplifier le quotidien des gens, on peut vraiment leur aider à faire des économies sur la facture, à faire des gains de confort. On peut faire ça en ayant un impact positif pour la planète et on peut faire ça en créant de l'emploi en France. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait nous lever le matin, c'est ce qui nous donne la banane et notre énergie toute la journée. Et il faut qu'on continue, qu'on pousse ça le plus loin et le plus fort possible.
Merci. Et puis, on a donc de beaux messages à faire passer à nos auditeurs. Donc déjà, si vous souhaitez postuler, si vous êtes motivé, je pense qu'il y a de l'emploi par ici. Et puis, si on vous appelle pour faire de la rénovation énergétique, vous raccrochez.
Et vous appelez Effie.
Et vous appelez Effie. Voilà, merci Frédéric d'être venu dans l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Frédéric. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.